Leçon 12, dispensatrice de vie, rachetée. Depuis le commencement, Dieu a créé les femmes pour qu'elles soient des dispensatrices de vie. Cependant, depuis la chute, dispenser la vie est entaché de maladie et de mort. C'est devenu une lutte contre le péché et l'égoïsme. L'amour est au cœur du fait de dispenser la vie, mais seul Christ peut recréer des dispensatrices de vie remplies d'amour à partir de marchandes de mort déchus et égoïstes. Il n'y a que lui qui puisse nous renouveler dans notre lutte constante contre la douleur et le labeur entraînés par la malédiction. Jésus en est la vie et la source, et nous sommes ses canaux et vaisseaux. Cette leçon comporte trois parties principales. Tout d'abord, une étude de versets dans le Nouveau Testament qui parle de dispensatrice de vie soutient la validité de cet aspect pour notre époque. Deuxièmement, nous étudierons comment Christ souligne les luttes et les vertus du dispensateur de vie ultime. Enfin, un survol de dispensatrice de vie biblique révèle comment Dieu rachète les femmes et les rend capables de donner la vie dans ce monde déchu. Les épîtres pastorales sont les lettres de Paul adressées aux jeunes pasteurs du 1er siècle, Timothée et Tite. En 1 Timothée 3,15, Paul écrit « Mais si je tarde, tu sauras comment ils font se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » De quelle manière devrions-nous agir en tant qu'enfants de Dieu au temps de l'église? De quelle manière les femmes chrétiennes pieuses devraient-elles agir? Le mythe moderne de la surpopulation et l'influence féministe méprisent le travail de la dispensatrice de vie, mais les Écritures sont claires là-dessus. Un survol des versets suivants, 1 Timothée 2, 10 à 15, 5, 9 à 16 et Tite 2, 3, 5, va nous démontrer que Dieu a conçu, Dieu veut, ordonne et nous a créés pour un style de vie et toute une existence de dispensatrice de vie. 1 Timothée 2, 10 à 15 est un passage important sur la féminité. Nous avons déjà réfléchi aux versets 10 à 14 dans l'aspect aide complémentaire. Je désire maintenant me centrer sur le verset 15 qui, comme les versets précédents, est également contesté et mal compris. 1 Timothée 2, 15 dit « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. » Que signifie ce verset? Il ne nous parle pas de mériter le salut en ayant des enfants. Deux chapitres plus loin, dans un passage parallèle, Paul dit à Timothée « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. » Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Paul n'est pas en train d'enseigner dans ces passages que le salut s'obtient par les œuvres. Le salut dont il parle ici n'est pas l'événement de la justification, mais plutôt le processus de la sanctification. Comme il nous est dit en Philippiens 2:12, « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Cela ne signifie pas que l'on doit mériter le salut dans le sens de la justification, mais bien plutôt que notre maturité spirituelle doit croître avec notre obéissance. Paul prescrit quatre vertus spirituelles de la dispensatrice de vie dans le verset 15, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Il met ses vertus en contraste avec la vanité et le matérialisme de 1 Timothée 2,9 et l'usurpation bruyante sous-entendue aux versets 11 et 12. Ces vertus répondent aux défis perpétuels que rencontre la dispensatrice de vie alors qu'elle met au monde et élève ses enfants. La foi fait taire l'inquiétude, l'amour bannit l'égoïsme, la sainteté répond aux distractions mondaines, la maîtrise de soi contrôle la colère et fait prêter attention à l'esprit vagabond. Si une femme persévère dans toutes ses vertus au cours des années où elle dispense la vie, non seulement sera-t-elle sauvée de bien des incidents malheureux, mais son caractère en sera formé et deviendra celui d'une femme pieuse. La première vertu de Paul est la foi. Dans les cours de préparation à l'accouchement que j'ai suivis, on nous a enseigné que l'une des choses les plus importantes qui nous aident à supporter la douleur est de nous concentrer sur quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. On nous recommande d'apporter avec nous à l'hôpital un objet que nous aimons regarder. Pour le chrétien, le centre spirituel extérieur à nous-mêmes devrait toujours être le Seigneur. Plus les tâches et les épreuves de cette vie sont intenses, plus nous avons besoin de regarder intensément à Christ. Nous devons particulièrement mettre l'accent sur le fait de regarder à Dieu comme le pourvoyeur. Une femme a un besoin énorme d'avoir quelqu'un qui pourvoie à ses besoins quand elle est en train de souffrir pour donner la vie. Le mari est le pourvoyeur délégué par Dieu. Espérons qu'il assure. Il se peut qu'il ne soit pas fidèle dans cette responsabilité ou qu'il soit absent. Mais même si nous avons le privilège d'avoir un bon mari, nous avons besoin de nous centrer sur Dieu qui est le pourvoyeur ultime. En plus du besoin réel et objectif d'avoir un pourvoyeur, une femme qui accouche est assaillie par de multiples inquiétudes pour elle-même, pour son bébé et pour des détails relatifs aux soins. Et aucun mari humain ne peut pourvoir à cela. La foi est donc la première vertu qui soutient les femmes dans les difficultés de l'enfantement. L'amour est la seconde vertu mentionnée par Paul, et c'est une vertu centrale pour la dispensatrice de vie et pour toute la vie chrétienne. Jésus, Jean, Paul et toute la Bible enseignent que l'amour est la vertu fondamentale. Nous pouvons envisager les cinq aspects sous une forme pyramidale. Sur la première marche se trouve la gestionnaire pour Dieu avec sa responsabilité, et gloire de l'homme avec sa pureté et son élégante beauté. Sur la seconde marche se trouve l'aide complémentaire avec son cœur pour servir et sa loyauté, et dame sagesse avec ses talents, son discernement et sa crainte du Seigneur. Enfin, sur la marche supérieure, à l'apogée, on trouve la dispensatrice de vie, avec son amour pour les autres. L'amour de la dispensatrice de vie doit déborder et se déverser en cascade sur tous les autres aspects, ou bien nos vies, aussi vertueuses soient-elles, seront les cymbales qui retentissent que Paul décrit dans 1 Corinthiens 13. En tant que mère, vous devez avoir de l'amour pour Dieu, pour le bébé et pour son père. En tant qu'enseignant, vous devez aimer vos élèves et la matière enseignée. Vous pouvez leur donner de l'instruction et de la discipline, mais vous ne pourrez jamais leur inculquer l'amour de la vérité si vous ne l'aimez pas vous-même. Si nous donnons des soins médicaux par profession ou de façon moins officielle, comme nous sommes toutes amenées à le faire de temps en temps, nous devrions nous efforcer d'aimer les malades, les personnes âgées ou handicapées dont nous prenons soin. Nous devrions même aimer les gens normaux que nous servons jour après jour. La troisième vertu prescrite par Paul est la sainteté. Le mot « sanctifier » signifie « mettre à part dans un but particulier ». Par exemple, la vaisselle du tabernacle a été sanctifiée pour un usage sacré seulement. La sainteté de la maternité est rarement mentionnée aujourd'hui, car notre société a beaucoup minimisé son importance. La plupart des femmes ne se mettent pas à part pour leur maternité. C'est plutôt un domaine qu'elles essaient de caser au milieu du reste. Ici, Paul enseigne la sainteté de la maternité. Mais quand nous, en tant que femmes, portons, soignons ou élevons nos enfants, leur entretien est fondamental à notre service pour Dieu. Nous savons que nous ne devrions ni boire, ni fumer, ni nous droguer au cours d'une grossesse. C'est une façon de se mettre à part. C'est peut-être plus difficile encore de faire passer nos enfants et leurs besoins à la maison avant nous-mêmes. Les choses que nous ferions à l'ordinaire, nous n'avons pas le temps de les faire parce que nous devons être des dispensatrices de vie. Nous sommes mises à part dans ce but. Enfin, la Bible nous dit que tout cela doit se faire avec la maîtrise de soi ou modestie. En tant que dispensatrice de vie, souvent nous n'avons pas envie de faire notre travail. Nous sommes harcelés, fatigués ou déprimés. Bien des choses que nous faisons durant ces longues années de maternité ou de soins envers une personne âgée, nous les faisons parce que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi, et non parce que nous ressentons l'émotion de l'amour. Cette sorte de renoncement à soi est l'amour véritable et aussi le fondement de la vraie spiritualité. Pour conclure cette partie, laissez-moi juste ajouter que le cœur de toute famille, église ou société, c'est l'amour et le don de ses dispensatrices de vie. Dans 1 Timothée 2,15, Paul donne le mode d'emploi sur la façon de s'y prendre dans un monde maudit. Il nous encourage également en ce que dispenser la vie en mettant au monde des enfants et en les élevant est une voie désignée et conçue sur mesure par Dieu pour la croissance spirituelle des femmes. 1 Timothée 5, 9 et 10 est un passage classique de la féminité dans le Nouveau Testament. C'est comme le curriculum vitae selon Dieu d'une veuve reconnue. Nous savons qu'un solide CV inclut les diplômes, les postes importants qu'on a occupés et les comités prestigieux où l'on a siégé. Ces choses sont particulièrement importantes pour les femmes. Des titres tels qu'épouse et mère ne pèsent pas lourd. Dans notre société, ces titres sont simplement personnels et ont peu de valeur dans le monde réel. En tout cas, c'est ce qu'on nous fait croire. Jetons un œil au CV de Dieu pour une veuve de 60 ans. Cette liste décrit ce qu'il pense qu'une femme mariée devrait avoir fait arrivée à 60 ans. Alors, on lit en 1 Timothée 5, versets 9 et 10. « Qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit appliquée à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. » Voilà un exemple où nourrir la vie constitue le mode de vie de toute une existence. Cette femme a pris soin de son mariage, elle a soigné ses enfants, elle a prodigué des soins dans son église en lavant les pieds des saints. Elle a exercé l'hospitalité envers les étrangers, envers ceux qui étaient en dehors de l'église et ceux qui étaient dans la détresse, envers les nécessiteux et là où il y avait une crise dans la communauté. En bref, elle s'est dévouée à toute œuvre bonne. Dieu regarde ses qualifications chez une femme de 60 ans et dit « C'est un CV qui m'impressionne. Cette personne est formée, sage et qualifiée. » Être inscrite sur le rôle signifie probablement que les femmes qualifiées comme veuves à 60 ans étaient enrôlées par l'Église pour exercer un ministère d'aide, de miséricorde, de conseil, et ainsi de suite. En retour, elles étaient soutenues financièrement par l'Église. Les jeunes veuves ne doivent pas être inscrites sur le rôle parce que leur caractère n'est pas encore formé. En 1 Timothée 5, versets 11 à 15, il est écrit « Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement. Avec cela étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. » Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent pas à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Ces jeunes femmes avaient été mariées et leur désir sexuel avait été éveillé. Elles n'avaient probablement pas d'enfants ou bien un ou deux seulement. Apparemment, Paul avait essayé d'employer ces jeunes veuves et avait fait l'expérience qu'elles n'étaient pas assez mûres pour servir dans l'Église. Elles ne sont pas de bonnes ouvrières, elles ne contrôlent pas leur langue ou leur désir sexuel. Par conséquent, elles changent leurs priorités qui passent de servir Dieu à chercher un autre mari. Il est vivement recommandé à ces jeunes veuves de se remarier et de retrouver une vie de famille parce que c'est le terrain d'entraînement normal pour acquérir ses vertus et la maturité. La vie de maîtresse de maison n'est pas la seule voie de la maturité pour une femme, mais c'est la voie classique. Les vierges ne sont pas mentionnées ici. Cependant, 1 Corinthiens 7 dit que les vierges qui sont décidées à rester vierges sont encouragées à le faire. La vie célibataire est mise en avant pour les chrétiens comme une occasion de servir le Seigneur sans aucune distraction, en évitant tous les problèmes de la chair que les gens mariés rencontrent invariablement. Cependant, les célibataires doivent profiter de leur liberté pour servir Dieu et les autres, et non comme une manière d'échapper à toute responsabilité. L'argument de 1 Timothée 5 est que le style de vie et la durée de vie nécessaire pour apprendre à nourrir la vie ne peuvent être court-circuités. La femme de 60 ans, qui sert les autres toute sa vie, va développer un caractère qu'une femme de 25 ans ne peut pas avoir. Cela correspond parfaitement à ce que dit Tite 2, 3 à 5, qui enseigne que les femmes âgées doivent enseigner aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Apprendre à être une bonne dispensatrice de vie prend toute la vie, et après l'avoir appris, vous devez apprendre aux jeunes femmes comment faire. 1 Timothée 5,16 déclare « Si quelque fidèle, homme ou femme, a des veuves, qu'il les assiste et que l'Église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. » On encourage les femmes ici à prendre soin des veuves dépendantes. L'une de mes amies, après s'être occupée de ses parents âgés durant 20 ans, s'est tournée vers ses vieilles tantes veuves pour s'occuper d'elles pendant les 10 années restantes. C'est laborieux, c'est difficile et souvent stressant. Pourtant, il n'y a aucun doute, c'est la chose à faire. Ce verset précise que c'est un service de la dispensatrice de vie qui plaît au Seigneur. Dans un séminaire, j'ai demandé une fois à celle qui n'était pas mère de prendre la parole et de dire comment elle dispensait la vie. J'ai été très contente de leur réponse. L'une d'elles a raconté qu'elle connaissait une femme qui était professeure dans le domaine du développement de l'enfant. Les années suivantes, cette même femme a exercé un ministère formidable en rendant visite aux personnes en phase terminale de cancer. C'est un excellent exemple d'une façon de dispenser la vie qui demande beaucoup de maturité, comme tous les ministères relatifs aux personnes âgées aux nécessiteux, aux personnes handicapées ou en fin de vie. En résumé, les Écritures précisent que dispenser la vie doit à la fois être un style de vie et un ministère de toute une existence. Celles qui empruntent ce chemin de service dans l'amour obtiendront une véritable maturité en tant que femme et un trésor de sagesse à transmettre à la génération féminine suivante. Jésus-Christ, étude de cas ultime d'un dispensateur de vie. Christ est le plus grand modèle de la dispensatrice de vie exactement comme il est l'exemple ultime de la soumission pour l'aide complémentaire. Ce n'est pas parce que Christ est une femme ou qu'il est féminin, il n'est ni l'un ni l'autre, mais c'est le seul des trois membres de la Trinité à avoir donné la vie par son corps. Jésus utilise l'expression « mon heure est venue » à la fois pour parler de sa crucifixion, en Jean 12, versets 23 à 26, et pour l'accouchement en Jean 16, versets 20 à 22. « L'heure est venue » est un idiome biblique qui concerne un temps de jugement. La crucifixion a été l'ultime jugement du péché de l'homme, la douleur de l'enfantement fait partie du jugement du péché originel. En conséquence, il y a plusieurs similitudes entre dispenser la vie physiquement pour une femme et dispenser la vie spirituellement pour Christ. Nous allons examiner cinq malédictions que Christ a affrontées et que nous, en tant que femmes, devons affronter dans la lutte pour dispenser la vie. Les malédictions communes à la crucifixion et à l'enfantement. Christ savait certainement depuis son plus jeune âge que pour dispenser la vie, il aurait un rendez-vous avec la souffrance et la mort. Quand nous sommes enceintes, nous connaissons une ombre de la même chose. Nous savons que nous avons un rendez-vous pour dispenser la vie qui va entraîner de la souffrance pour nous. Nous nous débattons toutes avec l'appréhension à un degré plus ou moins grand. Comment l'accouchement va-t-il se passer? Est-ce qu'il va y avoir des complications? Est-ce que le bébé sera normal? Est-ce que je vais m'en sortir? Je me demande combien de fois au cours de la vie de Christ, l'ombre imaginaire ou réelle d'une croix l'a assaillie. Il a dû faire face à l'appréhension de la croix. Il savait que son heure arrivait. La honte est une part intéressante de la malédiction de Christ parce qu'il n'y avait rien dont il ne pouvait avoir honte. Il était sans péché. Pourtant, on l'a considéré comme un criminel et on l'a pendu nu sur une croix. Bien que n'étant pas coupable, il a connu la honte, on l'a exposé au regard, on lui a craché dessus et il a été humilié sous la colère de Dieu. De façon similaire, il n'y a rien de honteux à avoir un bébé, et pourtant la plupart des femmes luttent avec des sentiments de honte ou sont gênées à un certain moment pendant l'accouchement. Nous sommes nus, exposés au regard et souvent sans défense. Cela fait partie du fait de donner la vie au travers de nos corps. Christ a dû endurer l'énorme souffrance physique de la crucifixion. Pour nous tous. Les mères connaissent aussi la douleur lorsqu'elles donnent naissance. C'est une bonne chose que de pouvoir utiliser les techniques et médicaments qui allègent la douleur, mais la réalité de Genèse 3:16 n'a pas encore été ôtée. Il y a des parallèles spécifiques entre le désespoir, qu'on connaît souvent en accouchant, et l'expérience de Christ en mourant. Beaucoup de luttes dans ce monde suivent le même modèle. Elles montent graduellement, deviennent intenses, se résorbent à leur paroxysme et disparaissent. Pour un accouchement, la première phase du travail ouvre l'utérus. Ensuite, le corps fait une transition pour pousser le bébé dehors. Troisièmement, le bébé est né. Finalement, le placenta est expulsé. Lors de la phase de transition, juste avant que le bébé naisse, beaucoup de femmes se sentent au plus mal. Une sage-femme m'a dit une fois qu'il y a plus de choses qui se passent sur le plan hormonal au cours de cette phase transitoire que lors de toute autre expérience faite par le corps humain. Les femmes se sentent souvent désorientées et désespérées à ce moment-là. Christ est resté sur la croix pendant 6 heures. Vers la fin, il a atteint le plus grand désespoir et s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le monde lui-même s'est assombri. C'est vers la fin qu'il a certainement dû être le plus fatigué, physiquement et spirituellement, et le plus désespéré. Il a affronté la mort, et il est mort pour donner la vie aux autres. Beaucoup de femmes au cours de l'histoire sont mortes en accouchant, en donnant la vie physiquement à quelqu'un d'autre. Comment Christ a-t-il affronté ces années de dispensateur de vie? Christ a lutté avec la peur, la honte, la souffrance, le désespoir et la mort pour dispenser la vie. Comment a-t-il affronté toutes ces choses? Hébreux 12:2 déclare que, en vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Je connais une sage-femme qui a la photo d'un bébé adorable affiché dans sa salle de cours. Elle explique à ses élèves « C'est notre objectif et notre priorité ». Nous passons par toutes les difficultés de la grossesse et de l'accouchement avec cet objectif en tête. Apparemment, Christ a fait quelque chose comme ça. Il a gardé en tête pas seulement un bébé humain, mais le salut de tout son peuple et la défaite de Satan et de la mort. C'était la joie qui lui était réservée, son grand objectif. Avoir gardé son objectif en tête a fait partie de la façon dont il a accompli son œuvre. Christ a souffert la croix. Même s'il avait ce joyeux objectif devant lui, la croix était quand même terrible. C'était quelque chose qu'il devait endurer. L'évangile de prospérité nous fait peut-être sous-enseigner la vertu de l'endurance. C'est vrai que Dieu bénit ses enfants, mais il les fait passer par beaucoup d'épreuves et de difficultés également. Si Christ a eu besoin d'endurance, combien plus en avons-nous besoin dans notre ministère de dispensatrice de vie? Hébreux 12:2 nous dit aussi que Christ a méprisé l'ignominie. Aussi terrible que la honte de la croix ait pu être, Christ l'a méprisée. Il l'a considérée comme insignifiante en comparaison de son objectif, vaincre la mort et sauver les pécheurs perdus. Paul dit quelque chose de semblable en 2 Corinthiens 4:17 lorsqu'il déclare que nos ennuis sont de légères afflictions du moment présent qui vont produire pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Comme Christ, nous devrions voir nos difficultés comme étant insignifiantes à la lumière de la gloire à venir. Sur la croix, Christ a également dispensé la vie avec résolution. Alors que l'heure de la crucifixion approchait, Luc 9:51 rapporte qu'il prit la résolution d'aller à Jérusalem. Ainsi, il a accompli la prophétie d'Ésaïe. « J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. » Tout comme Abraham, qui s'est levé de bonne heure pour sacrifier Isaac, Christ n'a pas tenté d'esquiver la croix. Il s'est avancé vers elle délibérément, avec intention. Cependant, la fermeté de sa résolution ne signifie pas qu'il a donné à contre-cœur. Il est mort pour nous volontairement. En bon berger, il déclare en Jean 10:18 « Personne ne me l'ôte, ma vie, mais je la donne de moi-même. » En imitant Christ, la dispensatrice de vie rachetée ne donne pas seulement quand la lutte est grande, elle donne volontairement et librement. Christ est mort avec une soumission basée sur la foi en Dieu. Il a prié dans le jardin, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il voulait si possible éviter la souffrance, mais si la souffrance était nécessaire, il était prêt à l'endurer. Christ n'était pas masochiste et les chrétiens ne sont pas appelés à souffrir simplement pour souffrir. Mais si les épreuves sont nécessaires pour servir Dieu et pour dispenser la vie, nous devons aller de l'avant comme Christ l'a fait, avec une soumission envers Dieu basée sur la foi en Dieu. Finalement, et comme je l'ai déjà dit, l'amour est l'élément central. Jésus a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Christ a souffert, il a pris des résolutions et s'est soumis quand il a dispensé la vie car il nous aimait. Les malédictions de la dispensatrice de vie comportent l'appréhension, la honte, la souffrance, le désespoir et la mort. Christ a affronté et surmonté toutes ces malédictions. Motivé par l'amour et la joie à venir, il était résolu à faire face à l'appréhension de la croix, supportant la souffrance, méprisant la honte, donnant volontairement sa vie en soumission à Dieu par la foi. Un des symboles physiques les plus marquants de la femme en tant que dispensatrice de vie est celle d'une femme avec une cruche à un puits. Cette image se trouve dans la Bible, mais aussi dans l'art que l'on retrouve dans la plupart des cultures du monde. L'histoire la plus célèbre d'une femme au puits dans la Bible se trouve en Jean 4, lorsque Jésus parle avec une Samaritaine. Mais il y a 7 passages sur des femmes et des puits dans l'Ancien Testament, ce qui constitue un fabuleux prologue à la scène culminante de Jean 4. Pourquoi y a-t-il tant de femmes au puits dans la Bible? La réponse la plus simple et la plus évidente est qu'elles n'avaient pas l'eau courante. Aller chercher de l'eau pour la maison était considéré comme une tâche ménagère, et donc les femmes et les jeunes filles la faisaient, habituellement en portant des cruches sur les épaules et sur la tête. Au-delà du fait historique réel que les femmes allaient chercher de l'eau pour la maison, il existe également une signification symbolique plus profonde. Proverbe 5 déclare que la femme est un puits, une fontaine et une citerne. Dans le contexte, il est dit qu'elle est comme l'eau qui satisfait la soif sexuelle de son mari. Elle est censée être une source de satisfaction pour dispenser la vie. Le mari ne devrait pas en regarder une autre. Lorsque j'habitais à Vienne, mon attention a été attirée un jour par une publicité pour une eau minérale dans un magasin d'alimentation. Elle représentait une superbe femme nue tenant une cruche d'eau sur son épaule inclinée de sorte que l'eau puisse couler à flot. Dans le ton, il n'y avait aucune allusion vulgaire. Tout y parlait de pureté. La femme avait un beau visage, du type madone, et une silhouette douce et ronde, gentiment galbée. Dans n'importe quelle langue, elle proclamait clairement « Je suis un récipient vivifiant, et voici l'eau pure de la vie. Mes seins dispensent la vie, mes hanches dispensent la vie. Comme cette cruche, je déverse l'eau pure de la vie. » J'ai emporté cette pub et je l'ai gardée jusqu'à maintenant. J'aime tellement les images de femmes, de puits et de cruches que j'en ai toute une collection sur ce thème. Quelques-uns de mes amis m'en ont même rapporté de leur voyage. J'ai une petite sculpture sur bois venant de Bethléem représentant une femme avec une cruche d'eau et des photos de femmes au puits venant d'Angleterre. Prenez le temps de remarquer le thème de la femme, de l'eau et des cruches à eau dans les livres, les œuvres d'art et le monde qui vous entoure. L'eau est un symbole fondamental de la vie. Les puits et les pots à eau sont les récipients réels et métaphysiques de cette vie. Jésus y revient quand il parle à la Samaritaine de l'eau véritable de la vie. Une vue d'ensemble de 5 femmes au puits de l'Ancien Testament révèle des principes supplémentaires pour les dispensatrices de vie rachetées. Tout d'abord, Agar, au puits de celui qui vit. Dans la Bible, la première scène d'une femme au puits est l'histoire dramatique d'Agar dans Genèse 16. Christ apparaît comme l'ange de l'Éternel à Agar, qui s'est enfui loin de Sarai. Il parle à Agar d'Ismaël qu'elle va enfanter et lui ordonne de retourner vers sa maîtresse. Agar est stupéfaite quand elle réalise que Dieu est venu jusqu'à elle, l'a vue, et au courant de sa grossesse et aussi de sa détresse. Elle appelle cette source d'eau le puits de celui qui y vit et me voit. Dieu est vraiment le seul qui voit le monde intérieur d'une femme avec toutes ses émotions et ses montagnes russes hormonales. Dieu voit et comprend tout. Nous avons toutes besoin d'aller fréquemment à ce puits. Nous avons besoin de savoir que Dieu nous voit intimement dans nos luttes pour dispenser la vie. On peut avoir des maris formidables, des parents qui nous soutiennent et des amis compréhensifs, mais Dieu est finalement le seul qui voit et comprend réellement nos luttes pour dispenser la vie. Agar, au puits du renouvellement. On trouve Agar près d'un autre puits, dans Genèse 21, 9 à 21. Je l'appellerai le puits du renouvellement. Au moment où l'on arrive à Genèse 21, Agar a déjà été expulsée de la famille d'Abraham. Ismaël et elle sont sur le point de mourir de soif. Elle s'assoit par terre, complètement désespérée, ne voulant pas voir Ismaël mourir. Genèse 21, 17 à 21 déclare « Dieu entendit la voix de l'enfant ». Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Agar est secourue par la grâce de Dieu, mais dans un sens elle récolte ce qu'elle a semé. Quand elle est complètement épuisée, Ismaël, à qui elle a donné vie et foi, lui donne vie et foi en retour. Quand Agar ne peut plus prier et ne peut plus que se désespérer, Ismaël, lui, peut encore prier. Combien de fois vous est-il déjà arrivé d'être si fatigué que vous pensiez être sur le point de vous écrouler et qu'un de vos enfants ait fait quelque chose de tellement gentil ou spirituel que vous en avez été profondément renouvelé en voyant ses bons fruits revenir à vous. Ou bien Dieu manifeste simplement sa fidélité à votre enfant sans votre aide ou votre intervention, vous rassurant ainsi que c'est lui le véritable dispensateur de vie et pas vous. Alors que je préparais cette leçon, je pensais que le sujet principal serait l'amour, parce que l'amour est le motif central de la dispensatrice de vie. Mais à plusieurs reprises, ce qui est ressorti n'est pas le motif pour dispenser la vie, mais le moyen de le faire, par le renouvellement. Être convaincu de l'importance de dispenser la vie est rarement le problème, c'est trouver la force de le faire qui en est un. Mais le don de Dieu d'un renouvellement signifie que cela ne dépend pas entièrement de notre propre force. Lorsque nous n'avons plus de force, Dieu nous relève, de nouveau, en nous donnant une puissance et une vie que nous ne connaissions pas. Comme le dit le psalmiste, notre force augmente durant la marche. Dans Psaume 84, 8. Donc, Dieu ouvre les yeux d'Agar pour qu'elle voie un nouveau puits. Elle est à bout et il la renouvelle en lui donnant un nouveau puits, un puits qu'elle n'avait pas vu, un puits dont elle ignorait même l'existence. Rebecca au puits de l'opportunité. En Genèse 24, Rebecca rencontre le serviteur d'Abraham à l'endroit que j'appelle le puits de l'opportunité. Elle n'abreuvait pas les chameaux pour gagner un prince, mais cela a été le résultat final. Parce que Rebecca a accompli volontairement les humbles corvées qui se présentaient au cours de ses tâches ordinaires, la perspective toute nouvelle d'une opportunité s'est offerte à elle. Abreuver les chameaux l'a conduite à devenir l'épouse d'un prince et la mère de la nation la plus importante de la terre. En vérité, celui ou celle qui est fidèle en peu de choses sera fidèle pour beaucoup. Rachel au puits sous une pierre. En Genèse 29, versets 1 à 12, le puits de Rachel se trouve sous une pierre. Le problème ici consiste à puiser l'eau de ce puits, car la pierre est si grosse qu'il faut plusieurs hommes pour la rouler. Dans le cas présent, la beauté et la parenté de Rachel inspirent tellement Jacob qu'il se met immédiatement debout, roule la pierre et résout le problème. Nous pouvons penser à de multiples pierres qui bouchent nos puits de vie, ces pierres de l'amertume, de la fatigue, de la maladie. Mais Dieu est celui qui enlève ces barrières pour dispenser la vie, barrières qui sont trop lourdes pour nous. Parfois il le fait directement, comme avec Agar, parfois il utilise une autre personne, comme dans ce passage avec Rachel. Le puits de Séphora, dans Exode 2, 15 à 21, est le puits de l'oppression. Son puits ne se trouve pas sous une pierre. Au lieu de cela, il est entouré de brutes. Chaque jour, elle et ses sœurs bergères puisent de l'eau pour le troupeau. Mais chaque jour, des hommes minables chassent leurs moutons afin d'abreuver leurs propres moutons, obligeant ainsi injustement ces femmes à puiser l'eau. C'est un véritable cas de harcèlement des hommes envers les femmes au travail. Moïse se montre à ce moment-là, et avec toute l'agilité d'un guerrier égyptien, il chasse les méchants bergers et puise de l'eau pour Séphora et ses sœurs. Tout comme Dieu roule les pierres trop lourdes pour nous, il se bat dans les batailles trop féroces pour nous. Quelquefois, les solutions ne nous sont données que par Dieu lui-même. Mais très souvent, Dieu utilise des hommes pieux pour exercer ce ministère de secours. Tout comme nous sommes appelés à dispenser la vie, les hommes sont appelés à secourir et à pourvoir, comme dans le cas de Jacob et Moïse. Jacob a fini par épouser Rachel et Moïse a épousé Séphora. Les hommes dispensent la vie en jouant le rôle de mari d'une dispensatrice de vie. Quand ils pourvoient, défendent et guident des femmes, ils remplissent leur propre ministère de dispensateur de vie, ministère qui vient de Dieu. Jean 4 rapporte la rencontre ultime d'une femme et d'un homme à un puits, un homme qui n'était pas un simple homme, mais qui était en fait l'homme Dieu. Il parle, comme cela semble adéquat, du véritable sens de la vie. La conversation entre Jésus et la femme au puits de Jean 4 est probablement la conversation la plus importante de l'histoire entre un homme et une femme. Également connu comme un exemple d'évangélisation, de relation entre les peuples et de respect pour la femme, ce passage est aussi la réponse ultime au perpétuel problème de l'eau pour la femme. Toutes les femmes de ce monde sont des dispensatrices de vie maudites, fatiguées, drainées et sèches. La seule réponse véritable à son problème est un puits artésien jaillissant de l'intérieur. Jésus, qui est la vie, offre cela. Aujourd'hui encore, Jésus rencontre des femmes au puits. Que la source de vie d'une femme soit perdue dans le désert, encerclée par l'ennemi ou obstruée par une pierre, Jésus est le sauveur de celles qui luttent pour la vie. Avec le don du salut, Jésus donne une fois pour toutes le rafraîchissement qui dure pour toujours. Après quoi, il renouvelle continuellement ses dispensatrices de vie rachetées en leur donnant du repos et un réconfort fortifiant, et en les conduisant avec douceur. À plusieurs reprises, quand j'étais épuisée avec mes jeunes enfants, j'ai été réconfortée par Ésaïe 40, 11, qui décrit Jésus de cette façon. « Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. » Certaines traductions disent « celles qui ont des petits ». Si vous prenez soin de quelqu'un, Dieu vous dirigera d'une manière particulièrement douce. Souvenez-vous qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pour terminer, quelques études de cas supplémentaires sur les dispensatrices de vie. Dorcas est un magnifique exemple de dispensatrice de vie qui a pu être ou pas épouse et mère. Elle nous rappelle que toutes les femmes devraient être occupées dans un ministère de dispensatrice de vie, quel qu'il soit. Son histoire se trouve dans Actes 9, 36 à 42. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie « Dorcas ». Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lydde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent deux hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Nous avons vu que le Seigneur renouvelle les dispensatrices de vie. La résurrection de Dorcas est certainement l'un des renouvellements de dispensatrices de vie les plus spectaculaires qui soient de toute l'histoire. Dorcas a dispensé la vie à des veuves grâce à un ministère de couture. Sous forme de robe et de tunique, elle a laissé après elle un témoignage visible de bonnes œuvres au sein de sa communauté. Posez-vous la question, si je mourais aujourd'hui, que laisseriez-vous derrière vous? Quel témoignage concret laisseriez-vous de l'amour de Dieu? D'habitude, nous dispensons la vie grâce à nos compétences. Cela peut être la cuisine, cela peut être la couture, l'enseignement, la correspondance ou les soins. Vous dispenserez la vie par vos compétences. Dorcas a dispensé la vie et en a laissé un témoignage tangible en cousant pour les veuves. C'est un magnifique exemple de dispensatrice de vie renouvelée. Comme nous l'avons vu pour les femmes au puits, Dieu utilise parfois des hommes comme instruments pour protéger et pourvoir aux besoins des dispensatrices de vie. D'un autre côté, Dieu nous renouvelle souvent grâce à d'autres dispensatrices de vie. En d'autres mots, il utilise des femmes pour la communion et l'encouragement réciproque. Marie, la mère virginale de notre Seigneur, a recherché la communion de sa parente Élisabeth et s'est rendue chez elle pour 3 mois. Marie et Élisabeth partageaient une foi commune, une famille commune et des grossesses surnaturelles en même temps. Élisabeth était un exemple très spécial de Tite 2, 3 à 5 pour Marie. Non seulement elle était beaucoup plus âgée, mais elle avait 6 mois de plus dans sa grossesse. Peut-être avait-elle eu une relation profonde de longue date depuis des années, ou peut-être leurs grossesses les ont rapprochées pour la première fois. Dans tous les cas, elles ont goûté à une véritable communion et un encouragement de l'une vers l'autre en vivant des expériences semblables. Les dispensatrices de vie rachetées seront renouvelées par le Seigneur, par des hommes qui les protégeront et pourvoiront à leurs besoins, et par d'autres femmes, particulièrement par des femmes âgées. Les femmes peuvent être et devraient être une grande source de compagnie, de réconfort, de compréhension, d'encouragement et de conseil les unes pour les autres. Personnellement, j'ai une bonne amie et partenaire de prière qui a 30 ans de plus que moi. J'ai une autre amie qui est mon modèle qui a 20 ans de plus que moi. Elle a 4 enfants comme moi, sauf que les siens sont bien plus âgés. Une autre bonne amie et collègue a 10 ans de plus que moi. J'ai 2 autres amies qui sont proches de moi, en âge, l'une a des enfants, l'autre non. Ces femmes sont comme le système d'ancrage de la corde de vie. Nous nous accrochons à la corde ancrée par des guides le long de la mare. Elles sont l'une des principales manières dont le Seigneur me renouvelle en tant que dispensatrice de vie. Si vous êtes une dispensatrice de vie rachetée et que vous voulez être renouvelée, vous devriez rechercher la compagnie d'autres femmes d'âge et de situations différentes qui cherchent activement à servir Christ et à dispenser la vie. Pour terminer, nous savons que la mort est la défaite finale de la vie et de la dispensatrice de vie. Mais le christianisme offre une espérance, un renouvellement pour les dispensatrices de vie, au-delà de tout ce que le monde ou les religions peuvent offrir, la résurrection non seulement de l'esprit, mais aussi du corps. Nous l'avons seulement mentionné avec l'histoire de Dorcas. Réfléchissez maintenant au thème des femmes au tombeau et centrez-vous sur Christ, l'espérance de la résurrection. La femme dispensatrice de vie se trouve vaincue devant le tombeau. Jésus a réconforté des femmes au tombeau telles que Marthe, Marie et la veuve de Nain. Mais Jésus offre à ses dispensatrices de vie plus que de la compassion à leur douleur. Il offre la résurrection. Après avoir exhorté la femme de Nain à ne pas pleurer, il ressuscite son fils d'entre les morts et le lui rend. C'est à une sœur qui souffre que Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie ». Hébreux 11, 35 le dit succinctement « Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection ». En honneur à son rôle de dispensatrice de vie, Dieu permet que la femme, dernière à la croix et dernière au tombeau, soit la première à annoncer la résurrection. Jésus insiste particulièrement pour parler aux femmes de la vie et pour leur redonner vie de la mort. C'est la façon dont Dieu honore le fait que nous avons un ministère spécial avec lui pour dispenser la vie et une joie spéciale dans le triomphe de la résurrection.